Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes avec notre évêque, Mgr Marc Caillet. Bonjour.
Bonjour.
Et avec Olivier Drapé, le responsable de l'information et de la communication du diocèse. Bonjour.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, nous vous proposons une émission en trois parties. Nous terminerons par la vie de l'Église universelle. Nous parlerons de la vie du diocèse. Mais nous commençons tout de suite par parler de l'actualité.
Oui, Mgr Caillet, on se préoccupe beaucoup dans la presse et les médias, dans l'opinion publique, de la perspective d'un troisième reconfinement qui n'a pas, au moment où nous enregistrons cette émission, qui n'a pas encore été annoncé, qui ne le sera peut-être pas, nul ne le sait à vrai dire. Mais qu'est-ce que vous inspire cette éventualité d'un reconfinement général en France ?
Ben moi j'y vois d'abord sans doute a priori un échec de la gestion de cette crise sanitaire. Parce que si on en est encore à confiner les gens, alors qu'on sait par pertinemment que manifestement ces confinements et ces couvre-feux ne sont pas si performants que cela, c'est qu'il doit y avoir des manières de gérer cette crise sanitaire qui n'ont pas été complètement explorées. Et on va à nouveau confiner, alors qu'on sait parfaitement, à l'heure où nous parlons, les conséquences dramatiques de ces confinements dans la vie de la société. Il y a de plus en plus de corporations ou de groupes sociaux qui sont extrêmement impactés de manière très, très, très grave par ces confinements successifs. Alors je ne parle pas de la crise économique parce que pour l'instant on est encore en apnée dans la mesure où les banques centrales font marcher la planche à billets, si je puis dire, et apportent des subventions qui assistent, mais qui n'assistent pas tout le monde et qui n'assistent pas de manière parfaite. Je pense par exemple aux restaurateurs qui ont encore interdiction de rouvrir leurs établissements pour des raisons qu'on ne sait pas vraiment définir. Alors qu'on sait très bien que tous les protocoles sanitaires auxquels ils s'étaient eux-mêmes contraints permettaient très certainement de limiter vraiment la contagion dans leurs établissements. Bon, quand ils reçoivent 10 000 euros par mois de subventions, certains établissements qui sont dans les grandes villes, je pense à Paris, n'ont même pas suffisamment pour payer leur loyer. Et encore, ils auront à rembourser. Hein. On ne sait pas si la dette nationale, la dette des États qui augmente considérablement, en France, je crois que c'est 30 milliards de plus, on peut imaginer que cette dette sera remise, mais peut-être pas la dette du restaurateur qui devra payer ses 10 000 euros par mois, alors que quand il reprendra ses activités, il ne reprendra qu'à 30% de sa capacité, et donc il sera sans doute contraint de fermer. Un certain nombre d'établissements font faillite déjà. Hein. Je pense qu'on n'a pas vu encore les effets complets de la crise sanitaire sur les commerces, les petits commerces. Vous voyez de plus en plus de commerces qui ont fermé à cause des confinements précédents. Vous avez donc les restaurateurs, le monde de la culture qui est extrêmement impacté. Je pense au monde des étudiants dont on ne parle pas beaucoup. À peine, on commence à s'inquiéter. Mais les étudiants sont dans une situation désespérée. Cette incapacité, cette impossibilité d'aller suivre des cours en présentiel, comme on dit aujourd'hui, qui sont contraints parfois dans les grandes villes, dans un petit studio, et en plus s'ils doivent être confinés à suivre des cours par visioconférence, c'est insupportable. Ils sont même dans une situation de précarité, car souvent, ils avaient des petits boulots, en particulier dans la restauration, pour pouvoir maintenir un niveau de vie correct. Aujourd'hui, ils sont plongés dans la précarité. Il y a des suicides chez les étudiants. Et il y a de plus en plus, d'états suicidaires, même si il y a pas y en a qui disent qu'ils sont prêts à supprimer leur vie. Alors, ça veut dire sans doute qu'ils ne sont pas tout à fait prêts à le faire, mais ça veut dire qu'il y a des états dépressifs qui grandissent dans le monde des étudiants. Je pense aussi aux personnes âgées, à la gestion des EHPAD. Il y a encore des EHPAD où les personnes meurent seules, avec interdiction de visite des familles, ou d'une manière tellement contrôlée que ça en devient complètement inhumain. Donc je crois que, pour moi, la perspective d'un troisième confinement est vraiment dramatique.
Monseigneur, le gouvernement, beaucoup de scientifiques également, comptent beaucoup sur une campagne de vaccination en France et en Europe ou dans le monde pour vaincre la maladie. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que, par exemple, vous êtes favorable à un éventuel passeport sanitaire dont on parle beaucoup, qui permettrait aux personnes qui ont été vaccinées d'accéder à tous les lieux publics sans difficulté ?
Alors, la mise en place d'un passeport sanitaire, évidemment, aurait comme effet de rendre finalement indirectement obligatoire le vaccin, ce qui est une atteinte à la liberté, et d'autre part, créerait des discriminations entre ceux qui, parce qu'ils ont été vaccinés, pourraient accéder à tel ou tel service public, et ceux qui, au contraire, ou lieu public, et ceux qui, au contraire, n'ont pas été vaccinés, ben, n'en auraient pas la possibilité, le droit. Moi, je ne peux pas parler en scientifique, parce que je ne suis pas scientifique, et je sais qu'il y a beaucoup de controverses, quand même, autour de ces vaccins.
Pape s'est fait vacciner, vous allez vous faire vacciner ?
Pour l'instant, je n'ai pas l'intention de me faire vacciner, personnellement, mais je dirais que je ne suis ni pro-vaccin ou anti-vaccin, d'un point de vue... Je pense que l'Église n'a pas à se prononcer sur cette question. J'ai pas à dire aux gens vaccinez-vous et à culpabiliser les gens qui ne veulent pas se vacciner. Je pense que ça, c'est une erreur, que l'Église utilise sa voix et son autorité, qui est faite pour le magistère et dire la foi, d'entrer dans des sujets qui sont tellement sensibles et qui divisent tellement les citoyens. Donc moi, je me garderai bien. Je pense que chacun a le droit à un consentement éclairé. Ça, c'est inscrit dans la loi. Et ça veut donc dire qu'il faut vraiment que les gens qui demandent le vaccin, ils ont c'est tout à fait leur droit, et je n'irai pas me poser contre, aient effectivement connaissance précise de ces vaccins. Or, il est tout à fait étonnant que sur ces vaccins, nous avons des notices qui viennent de l'industrie pharmaceutique, qui a d'ailleurs est encore en phase d'expérimentation pour la plupart de ces vaccins, car nous n'avons pas à achever la phase 3, comme c'est le cas d'habitude, pour lancer des vaccins dans le public. Et nous n'avons pas beaucoup de notices scientifiques. Les scientifiques eux-mêmes disent qu'ils n'ont pas vraiment de vision à moyen et long terme, sans compter les problèmes éthiques que peuvent poser des vaccins qui sont constitués à partir de lignes cellulaires de fœtus avortés. Tout ça reste quand même très, très difficile à comprendre. Ensuite, moi, je dirais que, pour le coup, le retard à la vaccination en France est peut-être providentiel, quelles qu'en soient les causes, dont je ne suis pas capable de mesurer les tenants, les aboutissants, car il faut noter, comme ça, c'est factuel, je me contente de poser les faits sans être capable de pouvoir les analyser, bien sûr, hein, et d'établir, en tout cas, des relations de cause à effet, mais les pays qui ont commencé leur vaccination très tôt et qui ont procédé à une vaccination massive. Je pense à Israël, qui est le premier de tous ces pays, qui a déjà, depuis le 20 décembre jusqu'à la fin de ce mois de janvier, a déjà vacciné 25% de sa population. L'Angleterre, qui a commencé aussi avant Noël, donc ça fait un mois, la vaccination, et qui a vacciné 10 à 15% de sa population, sont les pays où... on appelle ça des variants peut-être, mais où la contamination a, du 20 décembre au 21 janvier, est passée du simple au triple, ainsi que la mortalité. Donc c'est toujours inquiétant de se dire, tiens, peut-être que, et ils sont arrivés beaucoup plus tôt que nous, à un reconfinement extrêmement strict.
Vous êtes en train de nous dire que le vaccin, finalement, c'est un mal plutôt qu'un remède.
Je ne le dis pas. Je dis qu'il y a des faits qui sont étranges, étonnants, et qui méritent en effet une vraie réflexion et une vraie analyse scientifique dont je ne suis pas capable, que je ne suis pas capable de faire.
Monseigneur, dans un autre domaine, mais peut-être en rapport aussi avec les inquiétudes qu'on peut avoir vis-à-vis des libertés publiques, il y a donc un projet de loi confortant les principes républicains, c'est le projet de loi dit sur le séparatisme, qui entend a priori modifier la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l'État. Les protestants, dans la presse d'aujourd'hui, se manifestent leur inquiétude. Ils y voient une menace à la liberté du culte. Qu'en pensez-vous ?
Mais toutes les religions, hein, y voient une menace à la liberté de conscience, à la liberté de religion et à la liberté de culte, qui est le libre exercice de sa religion dans notre société française, qui a été balisée par la loi de séparation de l'Église et de l'État de 1905. Tout le monde, et le président de la Conférence des évêques de France, Éric de Montebeaufort, a été auditionné, comme toutes les religions, hein, par cette commission spéciale dirigée par M. François de Rugy, et ancien ministre. Et donc, s'inquiète, en effet, et très, très inquiet de la tournure des choses. Et donc, après cette audition, a même écrit un texte qui est public, je pense, une lettre à M. François Drugy. Le secrétaire général de la Conférence des évêques de France avait lui-même écrit une lettre dans ce sens à M. Darmanin, ministre de l'Intérieur, pour s'inquiéter de la tournure que prend cette loi, qui n'est plus la loi contre le séparatisme islamiste, hein, entendu, sous-entendu, qui était d'abord la première intention de ce projet de loi, mais qui est une loi confortant les principes de la République. Et donc, confortant la laïcité et les principes de la République. Et donc, on se rend compte que, sous prétexte de risque d'amalgame entre l'islamisme et les musulmans de France, on n'a pas voulu s'attaquer vraiment au séparatisme islamiste, et on a fait l'amalgame avec toutes les religions. Et donc, ce sont toutes les religions qui risquent d'être impactées par ce durcissement de la laïcité, ces lois qui veulent conforter les principes de la République, c'est-à-dire il n'y a pas de loi au-dessus des lois de la République. Et donc il y a un vrai risque. Hein. Nous avons un équilibre qui était trouvé pour les associations cultuelles par la loi de 1905, qui laissait la liberté aux cultes de s'organiser en dehors de l'État et qui déchargeait l'État d'avoir à organiser le culte. Donc c'était un certain équilibre qu'on avait trouvé. En plus, il y a eu des accords entre le Saint-Siège et le gouvernement français en 1923-1924 qui garantissent aussi la structure ecclésiale des associations diocésaines, donc conforme à notre ecclésiologie, évidemment. Et aujourd'hui, on a l'impression que tout pourrait être remis en cause. Et que, par exemple, sur le plan de l'éducation, on va interdire toute éducation, toute instruction à la maison, ce qui est anticonstitutionnel. Mais on est prêt à interdire sous prétexte de séparatisme musulman, alors qu'on sait très bien, hélas, que le séparatisme musulman naît dans l'école publique. On l'a bien vu avec l'assassinat de Samuel Paty. Il y a dans nos écoles publiques des noyaux liés à l'islam qui contribuent à constituer ce qu'on appelle le séparatisme et qui peut avoir en effet des conséquences, alors évidemment qui ne sont pas le fait des musulmans en général, mais de groupes radicalisés qui vont d'une certaine manière perpétrer un état de violence et de division dans notre pays.
Nous vous retrouvons dans quelques instants, Mgr Hayé. Nous retrouvons Mgr Marc Hayé, évêque de Bayonne, Escarré et Oloron. Alors Mgr Hayé, on va commencer par un sujet pas très réjouissant, c'est le décès des prêtres dans notre diocèse. Je crois que l'an dernier, combien de prêtres sont décédés
15, je crois.
15. Bon, là, il y en a déjà deux au oui. Pays Basque, l'abbé Jean-Louis Larocque et le chanoine Paul Sarcou. Peut-être un mot sur ces décès de prêtres
Oui, c'est sûr que c'est toujours inquiétant et... Si vous voulez, on connaît pas mal de décès de prêtres depuis plusieurs années, parce que nous avons un clergé nombreux et un clergé âgé. Hein. C'est sûr que ces prêtres qui décèdent aujourd'hui font partie de générations où ils étaient nombreux à être ordonnés ensemble. Alors certains les ont quittés, c'est vrai, c'était une grande souffrance pour eux, hein, dans les années 70-80, où il y a eu pas mal de départs de prêtres. Mais eux, bah, ils étaient là, fidèles et à leur service, même si ceux-là qui viennent de décéder étaient déjà atteints par des gros problèmes de santé depuis quelques années. Et c'est vrai que ça pose forcément un problème, parce que le nombre de prêtres vaillants et valeureux qui ont servi notre diocèse et qui étaient d'une génération, encore une fois, riche en vocation, eh bien laisse des places vides, hein. C'est vrai que ça m'inquiète beaucoup pour ce qui est des vocations sacerdotales au sein du diocèse. Alors, je rends grâce à Dieu, d'une certaine manière, pour les prêtres venus d'ailleurs, qui sont venus renforcer notre dispositif, hein, sacerdotal depuis quelques années.
Je pense aux prêtres venus d'Afrique.
Je pense par exemple aux prêtres qui viennent d'Afrique. Je pense aussi à quelques autres prêtres qui ont pu rejoindre notre diocèse et qui sont aujourd'hui incardinés. Je pense aussi aux vocations, hein, qui ne sont pas toutes, tant s'en faut, issues de notre diocèse, même si un certain nombre des premiers qui sont entrés au séminaire qu'on a rouvert il y a 11 ans avaient des liens avec le diocèse, parfois même des racines familiales. Mais c'est vrai qu'un certain certain nombre sont venus dans le diocèse pour servir le diocèse, tout en venant d'ailleurs. Et je me souviens que au début de mon épiscopat, je me posais tout à fait la question de manière préoccupante du défi de la relève des vocations sacerdotales. Et j'avais écrit dans un petite interview sur l'ouverture prochaine d'une année de propédeutique, j'avais écrit qu'en regardant l'annuaire diocésain, donc c'était il y a 12 ans, en regardant l'annuaire diocésain et la pyramide des âges, eh bien je calculais que si le clergé ne bougeait pas, il y aurait, 10 ans plus tard, 70 prêtres seulement de moins de 75 ans. Quand j'ouvre l'annuaire diocésain aujourd'hui, je vois qu'il y a plus de 100 prêtres qui ont moins de 75 ans. Donc ça veut dire qu'il y a quand même eu une certaine relève. Mais cette relève, elle n'est pas suffisamment née de nos familles et de nos communautés du Pays Basque et du Béarn. Et donc ça reste pour moi la grande énigme, la grande question, qui est à la fois une souffrance, une interrogation et une stimulation dans la prière et dans la pastorale des vocations.
Alors comment justement relever ce défi des vocations, que ce soit les vocations sacerdotales mais aussi religieuses ?
Qui sont aussi très impactés, hein, on voit bien, avec la fermeture de Belloc, enfin, disons le transfert des moines de leur monastère au monastère des bénédictines. Tout ça, c'est pas des signes qui sont très très encourageants pour l'avenir. Oui, je pense au risque de me répéter que il faut d'abord renforcer la prière pour les vocations, car en effet, je le répète, dans l'Évangile, Jésus nous donne cela comme moyen privilégié, hein, de susciter auprès du maître de la moisson des ouvriers pour le service de la moisson. Mais il y a certainement d'autres moyens, et en particulier le service de la pastorale, diocésaine de la pastorale des jeunes et des vocations, a pour mission depuis un an de mettre en place, dans les zones ou même dans les doyennés, des équipes vocationnelles, qu'il y a eu d'ailleurs par le passé, hein, qui ont continué quelques années après que je sois arrivé, puis qui sont tombés un peu en désuétude. Et je crois que c'est important qu'il y ait quelques laïcs engagés, fervents, dans les doyennés, qui puissent porter cette œuvre des vocations, comme on disait autrefois, auprès des communautés, auprès des curés, en proposant des initiatives de prière, de pèlerinage, de témoignage aussi. Car je crois beaucoup que les jeunes sont soucieux de témoins. Hein, aujourd'hui, comme disait Paul VI, le monde d'aujourd'hui a besoin davantage de témoins que de maîtres. Et s'ils sont des maîtres, il faut qu'ils soient d'abord des témoins. Et je pense qu'il n'y a rien qui peut mieux susciter, ou en tout cas éveiller, une culture et une conscience vocationnelle, en particulier chez des jeunes, ou dans les familles, ou dans les communautés paroissiales, que des prêtres qui témoignent de leur vocation sacerdotale. Alors, je pense qu'au quotidien, tous les prêtres qui sont engagés, surtout ceux qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans de sacerdoce, bah, sont bien à même, hein, de montrer la beauté de cette vocation au service, au don total de soi, pour le service du Seigneur et de l'Église. Je pense aussi que les jeunes prêtres, qui évidemment sont spontanément plus proches des jeunes, eh bien, doivent prendre leur bâton de pèlerin, aller à la rencontre des jeunes, des groupes de catéchisme, d'aumônerie, de lycée ou d'étudiants, ou de jeunes professionnels, pour témoigner de la joie qu'ils ont d'être prêtres, hein, et d'avoir été en plus formés dans le séminaire diocésain.
Sur la tombe du cardinal Etchegaray, on a gravé la phrase « C'est le beau temps pour être prêtre ». Voilà, est-ce que vous pensez vraiment que c'est le beau temps pour être prêtre aujourd'hui ? Est-ce que c'est porteur pour un jeune aujourd'hui de s'engager dans la voie du sacerdoce ? Est-ce que l'Église, finalement, le modèle d'Église proposé aujourd'hui n'est pas un peu dépassé ?
Mais moi, je ne crois pas, parce que quand on voit les jeunes qui s'engagent aujourd'hui, c'est vrai ici, mais c'est vrai partout, hein, dans les diocèses, dans les communautés, sont des jeunes qui, justement, sont très touchés par la radicalité du don de soi. Hein. On est de plus en plus conscient de voir que les jeunes qui s'engagent dans l'Église, dans la mission, l'annonce de l'Évangile, le service des pauvres, etc., sont très touchés par la radicalité du don de soi au Christ. Et donc je pense au contraire que ce n'est pas le modèle d'Église que vous regardez, c'est la vocation à suivre le Christ. Hein. pas le modèle d'église, parce que le modèle d'église, il est forcément fluctuant, il peut avoir ses essoufflements, hein, et institutionnels en particulier, mais c'est pas ça que les jeunes voient. Les jeunes, ils voient surtout ce que c'est que leur rencontre avec le Christ, voyez. Ce qui est premier dans la vocation, c'est pas un modèle d'église ou une manière d'exercer le ministère, c'est une rencontre avec le Christ. Et ça, quand quelqu'un est saisi, comme dit saint Paul, par le Christ, ben, il oublie, je dirais, les essoufflements et les rides qui vieillissent peut-être parfois le visage de l'Église. Hein, et ils sont prêts à donner leur vie pour le Christ et pour l'Église, parce que je crois bien qu'en même temps qu'ils font ces sources du Christ, comme saint Paul sur le chemin de Damas, bien, ils font l'expérience de l'Église, qui avant d'être une institution, est une communauté, hein, et le corps du Christ, le corps vivant du Christ.
Dans quelques jours, nous entrerons dans le temps du carême. Alors, bon, on ne sait pas trop comment ça va se passer, parce que si on est confiné, on va avoir l'impression de revivre ce qu'on a déjà vécu l'an dernier. Qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à ces 40 jours de carême et comment on va vivre la Semaine Sainte ?
Ça va être à nouveau, comme tous les ans, un temps de conversion, preuve que nous avons toujours besoin de convertir, ça c'est évident, qui va être marqué aussi par la montée des catéchumènes vers Pâques, ces catéchumènes que j'ai rencontrés il y a quelques jours au cours d'une récollection à Bétharam, c'était très, très un lieu en plus.
Ils sont nombreux ?
Alors ils sont 22, hein, qui demandent le baptême, ce qui n'est pas énorme, mais c'est toujours assez touchant de voir combien ces personnes, qui sont généralement relativement jeunes, par deux ou trois qui ont un peu plus de la cinquantaine, ont fait une expérience spirituelle, des rencontres, d'abord avec le Seigneur, parfois la Sainte Vierge, et puis évidemment avec des membres de l'Église, hein, prêtres ou laïcs, et qui sont, qui justement sont, comme je le disais pour les vocations, tellement touchés par leur rencontre avec le Christ, qu'ils aiment déjà l'Église, quoi. Et qu'ils ont besoin des prêtres et des fidèles qui les accompagnent, et puis de connaître la foi de l'Église, de connaître les exigences de l'Évangile. Et c'est très frappant, hein. Je les rencontre toujours tous un par un, et je suis émerveillé de voir comment il y a des transformations profondes qui s'opèrent dans le cœur de ces personnes. Alors, moi, je ne sais pas, j'ose espérer que si confinement il y a, ce confinement se fasse d'une manière un peu moins drastique que ce fut le cas du premier confinement, et qu'en tout cas, hein, après les ordonnances du Conseil d'État, on ne revienne pas à une privation cultuelle.
La messe chrismale est prévue à quelle date cette année ?
Normalement, elle est prévue le mardi de la Semaine Sainte, et j'espère bien qu'on pourra se rassembler.
Et ça se passera où ?
Alors, j'espère bien que ce sera au Oloron, parce que depuis le temps qu'on devrait aller au Oloron, et qu'on ne l'a pas fait, donc je pense que ce sera au Oloron.
D'autre part, Monseigneur, y a-t-il pour les semaines ou pour les mois qui viennent, sous réserve bien entendu de ce que nous réserve l'actualité ou la crise sanitaire que nous traversons, y a-t-il des projets particuliers ? Est-ce que par exemple, diocèse en fête programmée le 22 mai 2021 s'annonce sous un jour favorable et comment les choses se présentent-elles ?
On l'a reporté donc de l'an dernier à cette année. Pour l'instant, c'est dans les tuyaux. On a déjà parlé avec le petit observatoire de la mission qui a été reconstitué, mais comme le présentiel est un peu en pointillé aujourd'hui, on n'a pas beaucoup avancé, mais on compte bien quand même reprendre le thème de l'an dernier, et autour de ces cinq essentiels qui constituent la vie de l'Église et qui la mettent aussi en état de mission, et donc de proposer que les communautés se rassemblent la veille de la Pentecôte, pour cette manifestation diocésaine, pour témoigner concrètement de la manière dont ils mettent en place dans leur communauté ces fameux cinq essentiels, hein, qui nous ramènent à la description que saint Luc nous fait de la communauté ecclésiale primitive, hein, dans les Actes des Apôtres au chapitre 2, verset 42. Ils étaient fidèles, l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain, c'est-à-dire l'Eucharistie, et aux prières. Voilà. Et le Seigneur leur adjoignait de nombreux disciples. Donc on voit qu'il y a aussi cette part missionnaire qui naît de cette communauté centrée sur le Christ.
Nous vous retrouvons dans quelques instants, Monseigneur Hayet.
Oui, Monseigneur Hayet, on a beaucoup parlé du confinement et lors des vœux au clergé, il y a maintenant quelques semaines, vous avez, au début du mois de janvier, vous avez souligné que ce confinement avait entraîné dans notre diocèse, dans notre pays et au sein de l'Église universelle, une chute de la pratique dominicale. Est-ce que c'est vraiment un constat qu'on peut faire et comment peut-on éventuellement y remédier ?
Alors, c'est vrai que j'ai exprimé un peu mes inquiétudes par rapport à ces conséquences du confinement, en tout cas de la crise sanitaire, sur nos communautés chrétiennes, en notant en effet qu'on a enregistré, c'est vrai, une chute de la pratique dominicale. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas retrouvé dans beaucoup de nos paroisses, c'est pas complètement le cas partout d'ailleurs, tous nos paroissiens. Peut-être en particulier les plus âgés, qui, ou bien par peur de la contamination, qui reste un petit peu comme une épée de Damoclès qui est entretenue par les médias, et peut-être aussi par confort, parce qu'au fond, on a tellement mis en place de messes radiodiffusées, de messes,
télévisées.
En ligne, voilà, oui, donc virtuelles, d'une certaine manière. Et bien que certains se sont dit, au fond, on est bien chez nous et on garde la maison. Alors ça m'a permis de souligner deux choses qui sont un peu mieux révélées par ce recul de la pratique dominicale dans les temps de déconfinement. Même s'il faut dire aussi que les conditions sanitaires dans lesquelles nous devons accueillir nos fidèles peuvent en décourager certains, parce qu'on a évidemment une moindre capacité d'accueil dans des églises où parfois il y avait grand rassemblement de peuple, et puis les mesures sanitaires peuvent aussi faire reculer certaines personnes. Mais je note deux choses. D'abord, ça souligne peut-être parfois chez certains le manque d'enracinement dans la foi, et qui a besoin d'être nourri, laquelle foi est nourrie par les sacrements, et qui nécessite un contact physique, parce que les sacrements, c'est justement le prolongement de l'incarnation, le prolongement du contact physique que Dieu a instauré avec l'humanité à travers l'humanité du Christ.
On ne peut pas se confesser par téléphone.
Non, on ne peut pas se confesser par téléphone. Il faut qu'il y ait un contact avec le prêtre. Et puis la deuxième chose que ça soulignerait, c'est cet effet de dispersion qui révèle le manque de sens finalement communautaire. Ce manque de sentiment d'appartenance à une communauté. L'Église est un corps. On ne vient pas à la messe seulement de manière personnelle pour rencontrer le Christ, même si c'est très important. Mais si je rencontre le Christ, je rencontre le corps du Christ. Parce que le Christ, c'est la tête qui est inséparable du corps, qu'est l'Église. Et donc, on lit aujourd'hui, où on enregistre cette émission, dans l'Épître aux Hébreux, cette parole de l'auteur de l'Épître aux Hébreux aux premières communautés chrétiennes. Donc on est vraiment à quelques années du mystère de la rédemption, et qui dit « Ne désertez pas vos assemblées, comme certains ont pris l'habitude de le faire, mais encouragez-vous-même, d'autant plus que est proche le jour du Seigneur. » Voyez. Donc je pense que c'est une exhortation qui est encore valable pour aujourd'hui.
Monseigneur Hayet, pouvez-vous nous dire en quoi consiste ou ce que représente l'année Saint-Joseph et l'année de la famille que le pape a souhaité mettre en place au niveau de l'Église universelle ?
Alors, vous voyez, c'est tout à fait providentiel et tout à fait inspiré. Cette année Saint-Joseph, pour le 150e anniversaire de la déclaration par le bienheureux Pie IX, le 8 décembre 1870, de Saint-Joseph comme patron de l'Église catholique, de l'Église universelle. Et puis cette année de la famille, qui est en fait pour le 5e anniversaire de l'exhortation apostolique à Maurice Laetitia sur la joie de l'amour, qui avait fait suite aux deux synodes extraordinaires et ordinaires sur la famille aujourd'hui. Tout ça est providentiel. Pourquoi ? Alors Saint-Joseph, c'est un protecteur de l'Église. L'Église a besoin d'être protégée, en effet.
Mais il n'a jamais rien dit, Saint-Joseph. Donc faire une année sur lui...
Non, il n'a pas beaucoup parlé, mais justement, je parlais des séminaristes hier, de Saint-Joseph, en leur disant, vous voyez, Saint-Joseph n'a pas parlé, donc il faut parler pour lui. Mais il a parlé par sa vie. Et il y a quand même beaucoup d'indications très intéressantes qui nous sont données par par l'Évangile, essentiellement saint Matthieu et saint Luc, dans les Évangiles de l'enfance, qui sont très significatifs de la place importante qui lui a toujours été reconnue, hein, pas seulement dans la piété populaire, mais dans le lancement de l'Église, mais qui manifeste cette position très importante. C'est pas parce qu'il parle pas dans l'Évangile, c'est-à-dire qu'il ne nous donne pas de parole, qu'il n'a pas une importance. En particulier, c'est la figure du Père, hein, qui transparaît dans cette figure de Saint Joseph. D'ailleurs, la lettre du pape, cette très belle lettre que je recommande au diocésain de lire et de méditer, qu'il nous a offerte pour lancer cette année de Saint Joseph, qui commence par « avec un cœur de père », hein, « patris cordae » en latin, « avec un cœur de père ». Donc il y a cette paternité, qui est la paternité de Dieu, qui s'exprime aussi à travers la paternité humaine, sans doute dans le cadre de la famille, mais pas seulement. Hein, l'homme est appelé à une paternité dès lors qu'il donne sa vie pour les autres, voilà, et qu'il est vraiment au service de la croissance de l'autre, et pas dans une espèce de possessivité. Alors ça peut être vrai dans la famille, mais ça peut être vrai dans la communauté humaine et dans notre manière d'assumer notre humanité masculine. Hein. Nous sommes tous appelés à exercer, même si on ne l'exerce pas dans le cadre familial, cette paternité, voilà, ce service, ce dévouement de la personne à l'autre à travers une responsabilité qui est une force. Saint-Joseph, c'est un homme fort, c'est un homme qui prend des responsabilités fortes à des moments importants, et puis Dieu sait si il est quand même l'époux de la Vierge Marie et le père légal, donc adoptif, comme on dit nous, de Jésus, donc c'est une sacrée responsabilité quand même, hein. Ben, il l'assume avec beaucoup de sens précisément des responsabilités.
Donc une année Saint-Joseph et une année
de la famille.
Année de la famille ou année de Amoris Laetitia?
Alors c'est une année de la famille Amoris Laetitia, je crois. Hein. C'est un peu je crois que c'est le titre exact que le pape François a donné. C'est intéressant, pourquoi? Parce que la famille, c'est le creuset de la société. La famille, c'est la cellule de base de la société. Et ça va tout à fait dans la ligne de l'encyclique du pape François, Fratelli Tutti, qui vient à point nommé dans une période de dispersion, de distanciation, d'une certaine manière, exacerbe l'individualisme qui caractérise notre culture et notre société, où on a tendance à être chacun pour soi, même si on prétend que c'est pour protéger les autres. Et donc je trouve qu'une année de la famille, comme le dit souvent le pape à la suite de ses prédécesseurs d'ailleurs, cellule de base de la société, sanctuaire de l'amour et de la vie, là où se nouent les premières relations avec ses semblables, et qui sont décisives pour les relations de proximité dont la société est tissée, eh bien je pense que ça vient à point nommé dans notre contexte d'aujourd'hui.
Le pape François, malgré sa sciatique, a le temps quand même de gouverner l'Église, et il a publié donc un motu proprio intitulé « Spiritus Domini » sur la modification du code de droit canonique en ce qui concerne l'accès des personnes de sexe féminin au ministère institué du lectorat et de la colita. Finalement, c'est ce qui se passe depuis un certain nombre d'années déjà dans nos paroisses. Voilà. On sait très bien que dans nos paroisses, sans les femmes, on serait peu de choses.
En effet, je crois que ça ne changera pas grand-chose dans la vie de nos communautés, parce que les femmes sont admises à la lecture et au service de la liturgie depuis longtemps. Et je crois qu'il ne faut pas d'ailleurs restreindre ce ministère du lectorat et de l'acolyta au fait de lire la parole de Dieu dans l'assemblée et de servir l'autel. Je crois que c'est beaucoup plus large que ça. L'acolyta, c'est présider la prière commune, donc un temps de prière, comme ça se fait dans les groupes de prière des mères ou dans bien des groupes une catéchiste qui préside la prière d'un groupe de catéchisme, etc. Bon. Ou peut-être aussi est ministre de la présidence d'une d'obsèque en l'absence de prêtre. Bon. Et le lectorat, c'est pas seulement lire l'écriture, c'est pas seulement lire la parole de Dieu, pardon, dans la liturgie, mais c'est aussi la catéchèse, les groupes bibliques, enfin voilà. Donc je crois que c'est d'une certaine manière élargir aux femmes, d'une manière instituée, mais non pas seulement reconnue, parce que de fait, c'est ce qui se passe dans la vie de l'Église, ce qui tourne autour de la parole de Dieu, et ce qui tourne autour de la liturgie dans la vie de l'Église.
Est-ce que ce n'est pas une porte ouverte par le pape pour l'ordination des femmes?
Alors je ne crois pas, parce qu'il exprime précisément dans ce motu proprio que l'accès des femmes au sacerdoce ministériel reste exclu. Hein, il le dit de manière explicite. Et ça n'irait pas dans le sens d'ailleurs de ce qu'il dit quand il dit la dignité de la femme doit résister à la cléricalisation de la femme.
2021, année Saint-Joseph, année de la famille et année Jacquère.
Ah oui, magnifique, oui.
Pourquoi une année Jacquère ? C'est parce que le
25 juillet tombe à dimanche. Hein, et donc, chaque fois que le 25 juillet tombe à dimanche, eh bien, c'est une année jubilaire de Saint-Jacques de Compostelle, donc à dite année Jacquère.
Vous avez une responsabilité, vous, particulière ?
Alors, moi, je coordonne la pastorale du chemin de Saint-Jacques en France, en lien donc avec les évêques espagnols et principalement l'archevêque Julian Barrio Barrio de Saint-Jacques de Compostelle, qui a d'ailleurs publié une très belle lettre, hein, qui s'appelle en espagnol, je ne saurais pas le prononcer bien, mais « Sal de tu tierra », hein, c'est-à-dire « Sors de ta terre », c'est la fameuse parole de Dieu adressée à Abraham, « Quitte ton pays vers le pays que je t'indiquerai ». Hein. Et il joue sur le mot « sal », qui en espagnol veut dire « sors » et aussi « sel », « sel de la terre ». Hein. « Sors de ton pays, va rencontrer le Christ à travers Saint-Jacques de Compostelle, au terme de ton pèlerinage, et reviens chez toi pour devenir le sel de la terre ».
Vous allez arpenter les chemins de Saint-Jacques cet été ? Peut-être un autre moment, d'ailleurs.
Oui, peut-être. Non. Je ne sais pas encore. Je pense que c'est une bonne idée, tiens, que vous me soufflez.
Monseigneur Hayet, le pape François a déclaré tout récemment le professeur Jérôme Lejeune vénérable. En quelques mots, pouvez-vous nous rappeler qui était le professeur Lejeune et ce que signifie le fait d'être reconnu vénérable ?
Alors, le professeur Lejeune est d'abord un savant qui a découvert plusieurs maladies, hein, mais en particulier une qui a marqué son histoire et je dirais et même sa vocation de médecin, qui est la trisomie 21, qu'on appelait autrefois le mongolisme. Hein. Donc c'est une déficience de l'intelligence qui marque un certain nombre de personnes qui viennent au monde donc avec cette, malformation génétique. Et il s'est beaucoup intéressé à cette population. Moi, j'ai assisté à ses obsèques en 1994, d'un cancer du poumon foudroyant, et à Notre-Dame de Paris, et il y avait un transept rempli de ses petits patients, parce qu'il avait une consultation ouverte à l'hôpital Necker pour les personnes trisomiques, et dans lesquelles il voyait le Christ et l'image de Dieu. Hein. C'est très frappant des parents qui sont affectés, sans doute, par ce handicap de l'intelligence qui marque leur enfant, et qui n'est pas handicapé du cœur, par contre, hein, parce qu'ils sont d'une affection extraordinaire, comme j'ai pu en avoir fait l'expérience bien souvent. Et les parents étaient très touchés de voir comment ce médecin, ce savant, ce grand savant, hein, parce que c'est d'abord un chercheur en génétique, et on peut dire le père de la génétique moderne, même un reconnu universellement. Et donc, il commençait par demander son prénom, il l'appelait par son prénom, et les parents disaient, mais on avait l'impression que mon fils était devenu un roi. Tellement il avait d'attention et de bienveillance et d'affection, hein, pour ses petits patients, hein, qu'il reconnaissait en lui comme un père. Quand il est déclaré vénérable, ça veut dire que au terme d'une longue enquête qui s'est d'abord passée dans le diocèse de Paris, puis qui passe ensuite à Rome, sous la direction d'une postulatrice qui est Aude Dugas, qui est une personne que je connais bien, qui a écrit d'ailleurs une magnifique biographie sur le professeur Lejeune qui s'appelle La Liberté du Savant, hein, Jérôme Lejeune, Liberté du Savant, aux éditions Arthège. Et ça veut dire que au terme d'une longue enquête, le pape reconnaît qu'il a pratiqué toute sa vie les vertus héroïques. Hein. Donc c'est la déclaration de l'héroïcité des vertus, donc la sainteté de sa vie, qui permet d'ouvrir la voie à la béatification, moyennant la reconnaissance d'un miracle obtenu par son intercession. Voilà, donc c'est une étape décisive dans la voie de la béatification, puis de la canonisation. Et c'est donc donné au monde, et c'est donc très opportun aujourd'hui, eh bien, un modèle exemplaire de médecin qui a été non seulement un grand chercheur en génétique, découvreur aussi donc cette maladie trisomie 21, mais aussi celle du cri du chat, et qui en même temps a été un avocat de la vie, un serviteur de la vie, et un avocat de la vie, parce qu'à un moment précis, il s'est rendu compte que sa découverte pouvait se retourner contre les enfants. On sait qu'aujourd'hui, 96% des enfants trisomiques qui sont dépistés avant la naissance sont avortés. Et donc, il a été dans un discours où il venait de recevoir le prix Kennedy, qui est le plus prestigieux prix scientifique accordé à un scientifique donc, aux États-Unis. Devant le même aréopage de scientifique, il a décidé de dire que la vie était précieuse dès son premier instant. Et donc, à partir de ce moment-là, une bonne partie de la communauté internationale scientifique s'est détournée de lui. Et sa carrière a été d'une certaine manière brisée, même si elle a continué à sa recherche et sa vie de médecin jusqu'au bout. Mais il a été profondément abandonné, trahi, attaqué. Et jusqu'au bout, il a défendu la vie. C'était un grand ami de Jean-Paul II, comme on le sait, qu'il avait nommé président de cette Académie pour la vie qu'il venait de fonder le jour de son attentat.
La prochaine étape, ça sera donc la reconnaissance d'un miracle pour qu'il soit béatifié, c'est ça ?
Voilà. Il faut qu'il y ait un miracle sur Connor. Il y a déjà pas mal de témoignages de gens qui prétendent qu'il y a eu des guérisons inexpliquées, mais il faut maintenant que des scientifiques, d'abord, et puis ensuite des théologiens, se penchent sur la réalité de ces faits et puissent un jour définir que non seulement c'est une guérison pour cause, sans cause connue, mais rationnellement, mais il faut encore que ce soit un signe pour la foi de l'Église, donc qu'il soit déclaré miracle.
Merci beaucoup Mgr Marc Caillé, merci Olivier Drapé et merci à tous les auditeurs de Radio Lapourdi et de Radio Présence pour leur écoute. À bientôt.